Au moins depuis la décennie 1980, la mondialisation contemporaine de l'économie tisse de nouveaux liens entre territoires, brouillant quelque peu la polarisation des activités économiques lorsqu'observées jusque-là à diverses échelles. Économistes et géographes ont jusque-là principalement travaillé en utilisant l'échelon des nations, mais les villes sont également au cœur de ce processus de mondialisation contemporaine. Cette mondialisation va placer un certain nombre de villes en position centrale dans des réseaux de longue portée, alors que d'autres vont s'en trouver moins intégrées. Une nouvelle division internationale du travail émerge alors. Ce sera l'objet de cette vidéo. Cette nouvelle division internationale du travail ne va plus opposer des pays industrialisés à des pays fournisseurs de main-d'œuvre et de matières premières dans des échanges asymétriques, mais elle va présenter un certain nombre de caractéristiques qui sont résumées ici. Ces chaînes de valeur sont désormais organisées à l'échelle mondiale, les chaînes de valeur des acteurs économiques, qui vont ainsi, ces acteurs, décomposer leur processus de production à l'échelle du monde et à l'échelle internationale. On parle de décomposition internationale des processus de production. Les acteurs majeurs de cette division internationale du travail nouvelle et de cette mondialisation contemporaine de l'économie sont ici les firmes transnationales ou firmes multinationales selon la terminologie utilisée. Et ces firmes transnationales, elles vont tirer parti des avantages de localisation absolus et comparatifs à l'échelle de l'ensemble du monde. Les investissements directs à l'étranger que vont produire ces firmes transnationales progressent de manière très rapide dans les dernières décennies. Lorsque l'on observe l'évolution de la population mondiale et qu'on la compare à l'évolution de la population urbaine mondiale, on a une progression qui est ici bien plus rapide de la population urbaine. Mais la progression du PIB est encore plus importante et sans commune mesure avec l'augmentation très rapide des investissements directs à l'étranger qui sont quasiment absents du paysage en 1950. Et donc on a une progression particulièrement rapide. Cette mondialisation, elle se fait avant tout depuis des pays du Nord et à destination de pays du Nord. Ce processus est avant tout un processus Nord-Nord. Lorsque l'on regarde les stocks d'investissements directs étrangers entrants, les stocks d'IDE entrants ici, la quasi-totalité de ces investissements s'opère à destination des pays de l'OCDE, à destination donc des pays développés, même si pour l'ensemble des espaces régionaux et des pays qui sont proposés ici, on a une augmentation de ces stocks d'IDE entrants. Ils se font donc avant tout depuis des pays du Nord et à destination de pays du Nord. Mais lorsque l'on dépasse un petit peu cet échelon national et que l'on s'intéresse aux villes, il est un petit peu plus difficile de trouver les données adéquates pour observer l'intégration ou non des villes dans ces réseaux d'investissement. Nous pouvons prendre dans un premier temps un premier exemple avec l'implantation des magasins IKEA en France, une firme transnationale de type commercial qui part à la conquête d'une clientèle. Et ce que l'on peut observer dans l'historique de ces implantations de magasins IKEA en France, c'est que les premiers magasins se situent avant tout à Paris, Lyon, Lille et Marseille. Et donc les premiers rangs de la hiérarchie urbaine française sont touchés dans un premier temps, avant qu'il y ait une diffusion qui s'opère dans le reste de la hiérarchie urbaine. On a donc des métropoles qui sont touchées dans un premier temps, avant une diffusion vers le reste du système de ville. Ces investissements directs à l'étranger sont avant tout urbains, mais ils se concentrent également avant tout dans les plus grandes villes. Lorsque l'on mobilise ici les indices de Gini, qui permettent d'observer la concentration de ces investissements directs à l'étranger dans un faible nombre d'aires urbaines dans notre cas, nous observons que l'emploi total est très concentré dans un nombre restreint d'aires urbaines, mais que le stock d'IDE voire le flux d'IDE, soit les investissements observés à une date donnée, soit les seuls investissements neufs au cours d'une courte période, sont bien plus concentrés dans un faible nombre d'aires urbaines et on peut imaginer que ce sont bien entendu les plus grandes aires urbaines françaises. On a donc des investissements menés par ces firmes transnationales qui sont dirigés depuis des villes et à destination de villes et avant tout des villes mondiales. Des villes mondiales qui possèdent une ouverture internationale très forte, qui est reliée à la concentration sélective d'activités qu'on y observe. Ces villes mondiales, elles vont posséder des fonctions de commandement et d'articulation des réseaux, et notamment des réseaux financiers et économiques des firmes transnationales. Et étant donné que l'on est face à un processus cumulatif, une fois qu'une ville atteint ce stade de ville mondiale ou de métropole mondiale, elle va probablement pouvoir rester à ce niveau de la hiérarchie des villes mondiales. Nous avons ici un gage de durabilité au fait d'avoir ces fonctions de commandement et d'articulation des réseaux. Cette interconnexion, elle peut s'observer dans un premier temps à partir de cette carte, à partir de cette classification des Global Cities, des villes mondiales, par le Globalization and World Cities Research Group, où nous observons ici un classement des villes mondiales à partir des localisations d'entreprises multilocalisées dans le monde de cinq secteurs d'activité représentatifs de la mondialisation, avec une concentration en Europe, en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est. Mais surtout, cette interconnexion, elle concerne toutes les villes du monde. Toutes les villes du monde sont reliées les unes aux autres par ces firmes transnationales. Et il est un petit peu difficile de repérer de grands ensembles dans ce document. Mais si on regarde les marges de ce document, on peut observer ici l'ensemble des villes d'Europe de l'Est hors Union européenne, l'ensemble des villes de l'ancien bloc soviétique, qui forment ici un ensemble régional relativement marqué. Et donc on a une interconnexion des villes mondiales, mais on a malgré tout des relations de proximité qui apparaissent toujours. Et on remarquera également le rôle de hub de Moscou et de Saint-Pétersbourg qui sont des portes d'entrée des portes d'entrée pour les autres villes de cet ancien bloc soviétique pour le reste du monde. Les investissements directs à l'étranger, ils sont avant tout dirigés depuis des villes. Ce sont dans les plus grandes villes mondiales, dans les plus grandes métropoles mondiales, que l'on retrouve ces sièges, aux États-Unis, en Europe et en Asie du Sud-Est. Mais ces investissements, ils sont également avant tout dirigés vers des villes. Lorsque nous observons la transnationalisation des économies urbaines en Afrique du Sud, on remarque que ces investissements étrangers, ils sont avant tout localisés vers les plus grandes métropoles, Cape Town, Johannesburg, Durban et Port Elizabeth. Mais lorsque l'on observe les fonctions et la position de ces investissements au sein des réseaux de commandement, dans ces réseaux des firmes transnationales, on peut décomposer les sièges locaux, les sièges nationaux de ces firmes transnationales et leurs filiales secondaires. Et ce que l'on observe ici, c'est la très forte concentration des fonctions de commandement ici à Johannesburg, centre financier majeur de l'ensemble du continent africain, alors que les filiales secondaires sont localisées dans la quasi-totalité de la hiérarchie urbaine. Avant tout dans les quatre métropoles dont je parlais précédemment, mais également dans un ensemble de villes petites et moyennes. Nous avons donc ici des inégalités rentaille qui sont bien plus importantes que concernant la population. La pente ici de cette relation rentaille est bien plus marquée pour ce qui est de la localisation des sièges locaux ou des filiales secondaires. Donc, on peut imaginer un renforcement des inégalités de taille des villes à partir de cette mondialisation de l'économie. Prenons désormais le cas français. Avec cette mondialisation qui s'effectue toujours par le haut, ce que l'on peut observer sur ce document, en mobilisant ici les lois d'échelle, mettant en relation la taille des villes et une grandeur, ici l'investissement étranger. On observe, à partir de ce paramètre bêta très supérieur à 1, une concentration bien plus importante dans les grandes villes que dans les petites villes. Nous avons donc une inégalité d'intégration des villes qui favorise, dans un premier temps, les plus grandes villes. Ce que l'on peut observer, c'est que l'ensemble des métropoles sont intégrées dans des proportions similaires. Paris compte 12% d'emplois sous contrôle étranger, tout comme Lyon, Strasbourg ou Douai-Lens, dans des proportions similaires en tout cas. Mais lorsque l'on regarde les villes plus petites, dans le bas de la hiérarchie urbaine, nous avons des profils d'intégration bien plus diversifiés, avec des villes qui présentent un quart de l'emploi total contrôlé depuis l'étranger, alors que d'autres sont quasiment exclues des réseaux des firmes transnationales. Nous avons donc une très forte diversité au niveau des petites villes. Et donc, nous pouvons ici cartographier ces écarts à la pente pour essayer de comprendre quelles sont les villes qui se situent de part et d'autre de cette droite d'ajustement. Et le résultat correspond ici à cette opposition régionale d'intégration très forte. Les villes qui sont exclues de ces réseaux des firmes transnationales étrangères sont très largement des villes du sud et de l'ouest de la France. Alors que les villes qui sont bien plus intégrées qu'attendues par leur taille sont des villes du nord et de l'est de la France, ainsi que de la proximité parisienne. Et donc on a une opposition régionale majeure. Ceci nous permet de montrer qu'il y a une intégration à intensité variable des villes françaises en nous appuyant sur les stocks d'investissement étrangers. Mais lorsqu'on les croise avec les flux d'investissement étrangers, les nouveaux investissements sur une courte période, nous pouvons déceler des trajectoires spécifiques d'intégration en considérant les attractivités à long terme, mais aussi à court terme. Ce que l'on peut observer sur ce document, c'est que des villes se situent en position de marginalité relative, une intégration plus faible qu'attendue de ces villes dans les réseaux, à la fois à long terme et à court terme. Ces villes, comme celle de Toulon par exemple, sont largement exclues des réseaux des firmes transnationales. Alors qu'à l'inverse, des villes présentent une attractivité déjà très forte et une attractivité qui est renforcée encore à court terme par l'attraction de nouveaux investissements. On peut citer par exemple la ville de Beauvais. Nous avons deux autres cas de figure avec des villes très intégrées à long terme mais qui peinent à capter de nouveaux investissements comme la ville de Maubeuge par exemple et des villes en rattrapage comme par exemple ici la ville d'Avignon qui était très peu intégrée en 2008 par ses firmes transnationales mais qui réussit à capter de très nombreux nouveaux investissements dans une période courte. Et donc nous avons ces quatre différents cas. Lorsque l'on zoome très rapidement, parmi les villes de marginalité relative, nous retrouvons des villes dans des situations géographiques bien particulières. Ajaccio, Brest, Quimper, nous avons vu que les villes du sud et de l'ouest étaient bien moins intégrées. Des villes en renforcement relatif, Le Havre, Beauvais, Strasbourg, Colmar. Des villes en déclin relatif qui se situent pour la plupart à proximité d'une métropole et qui semblent souffrir dans un laps de temps relativement court de cette proximité à une métropole, la métropole captant des investissements qui auraient pu se diriger à destination de ces villes, et des villes en renforcement relatif comme Avignon ou Montpellier, qui peinaient à capter des investissements à long terme, mais qui rattrapent leur situation dans une période récente. Ainsi, nous avons différentes mondialisations qui apparaissent dans les systèmes de villes. Tout premièrement, une mondialisation par le haut, avec une homogénéisation des profils d'intégration des plus grandes villes. Les métropoles sont les villes les plus attractives, elles captent les premières ces investissements directs à l'étranger et du fait de l'articulation de ces réseaux, cette mondialisation leur est largement bénéfique. Nous avons aussi une voire des mondialisations par le bas de ces hiérarchies urbaines avec des villes plus petites qui sont tantôt intégrées, tantôt exclues de ces réseaux et ceci peut très largement ajouter un facteur additionnel à l'accroissement des inégalités de taille des villes dans le système, étant donné que ceci peut très largement porter une certaine vulnérabilité pour les petites villes de nos systèmes, alors même que les plus grandes villes sont largement bénéficiaires de cette mondialisation économique contemporaine.